On a été amis à Paris ensemble. On avait 10 ans.
Eh ben, Tom. Alors les amis, je vous explique. Je vous explique mon accoutrement particulier.
Ah, vous aussi. Alors, oui. Les hommes, venez.
Alors,
c'est quoi?
C'est, alors, d'abord, ça n'a rien à voir avec la Hitnafout. Il se trouve que c'est orange, mais ce n'est pas pour ça. Hier, je fus envoyé, pour mon autre casquette, mon autre métier de guide, j'accompagnais un groupe qui se trouvait être l'école de Yavne primaire Henri Chili de Paris. Je n'avais que toute la semaine. Et on était pour notre dernière journée.
Yavne, en fait.
Hein? C'est le primaire de Yavne.
Primaire de Yavne.
Ouais. Et donc les élèves de CM2. Et donc ils ont fait un voyage extraordinaire en Israël pendant une semaine. C'est génial. Et hier, c'était notre dernier jour. On a fait la journée Masada, Mer Morte, enfin des baignades à côté de la Mer Morte, tout ça. C'était très sympathique. Tout va bien. Nous reprenons la route depuis la réserve naturelle de Einot Tsukim, En Feshra, à 4h30 de l'après-midi. Pour revenir à Jérusalem,
ouais.
On arrivait à Jérusalem à 17h30. Tout allait bien. On avait une activité de conclusion du voyage. Tout aurait été perfecto et demain, j'aurais pu venir aujourd'hui normal, habillé normalement et non pas en mode tioul. Mais, au moment où nous roulons depuis 10 minutes, nous sommes arrêtés par un barrage de police. Et c'est vraiment pour nous qu'il l'a arrêté. C'est-à-dire les autres, ils ont pu avancer, nous, ils nous ont arrêtés. Et pourquoi nous a-t-il arrêtés? Nous voyons au loin une fumée commencer à monter dans le ciel et on nous dit la route est bloquée car il y a un incendie qui vient de se déclarer et donc pour l'instant la route est bloquée. À combien de temps ça va durer? On ne sait pas, quelques minutes, peut-être une heure. Et en fait c'était un feu qui s'était déclaré déjà avant-hier soir et que les pompiers avaient plus ou moins réussi à maîtriser pendant la nuit, mais il a repris à 2h de l'après-midi et on est resté bloqué. On est resté bloqué de 4h30 à 21h. Alors, au début, on se dit on peut faire demi-tour, mais c'est demi-tour. C'est-à-dire passer par Arad, Beersheba, tout ça revêt. 3h30 de bus. Mais, non, on se dit ok. 3h30 de bus, là on était à même pas une heure de Jérusalem. Donc les chauffeurs se disent, on va attendre, même si on attend 2 heures, on est quand même gagnant.
C'est
gagnant, ouais. Et on se dit pas que ça va être long, ça a pas l'air extraordinaire. Et plus le temps passe, et plus la fumée devient grande, et plus les canadaires arrivent, les voitures de pompiers dans tous les sens, et en fait le feu grandit, et puis arrive 8 heures du soir. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il est 8h du soir. Or, on a commencé notre journée à 8h du matin. Donc, d'après la loi, les chauffeurs n'ont plus le droit de rouler. Parce que ça fait 12 heures qu'ils ont roulé. Donc, ils ne peuvent pas faire 3h30 de route maintenant pour revenir à Jérusalem. Parce qu'ils sont trop fatigués. Et même si les chauffeurs eux-mêmes ont dit que ça va, nous on le fait, eh bien, les responsables nous disent absolument pas, on ne prend pas le risque avec 60 enfants de faire rouler des chauffeurs qui sont fatigués. Bah, nous, on disait, ils ne sont pas fatigués, ça fait 4 heures, depuis 4h30 de l'après-midi, ils ne font rien.
Ils se reposent.
Ils se reposent, on ne roule pas, on est à l'arrêt. Et on est descendu du bus, on est tous les machins. Bon. Résultat des courses, la décision a été prise après avoir trouvé des trucs. À 9h, on prend la route et on va à 40 minutes de là, à l'auberge de Masada. Et on dort là-bas, pour permettre aux chauffeurs de dormir et de pouvoir repartir le lendemain matin. Et donc on est reparti ce matin à 6h du matin, et je viens d'arriver à Jérusalem. Et donc, ben voilà, je viens avec tout mon accoutrement
et mon attirail. C'est voilà. Auprès de quel organisme
ça? Hein?
Auprès de quel organisme?
Non, c'est, je sais pas, c'est l'école qui règle. C'est l'école qui gère, quoi. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je suis devant vous dans cette tenue.
Et en pleine forme, quoi. Pas trop.
Et en pleine forme. Évidemment, en pleine forme, ce qu'il y a, bien sûr.
C'est beau la jeunesse, hein.
Voilà. Tov. Tout ça nous permet de reprendre notre étude du livre de Orot HaTechiya, au chapitre 5, à la page Nun Vav. Ok ? Page Nun Vav, on est dans un chapitre qui est très long, dans lequel le Rav Kook nous explique quels sont les éléments essentiels du peuple juif qui ne pourront jamais disparaître. Ok ? Donc on est au troisième paragraphe qui commence par Aval Anachnu.
Shavim.
Voilà. Aval Anachnu Shavim. On parle évidemment de la résurrection du peuple juif à l'époque du Rav Kook. Aval Anachnu Shavim El Amegama A Elohit.
On revient.
Ok ? Nous revenons. On parle du sionisme, du retour du peuple juif sur sa terre. Nous revenons vers le dévoilement divin. El Atov Aklali Amakif Et Kol Umidgale Beashlamato Shel Kol Prat Veshel Kol Kibbutz.
Non, ça marche. Attendez, deux secondes. On va se rapprocher d'un écran parce que c'est trop.
Avec le bruit.
C'est trop loin, c'est dommage avec le bruit. Ouais,
alors venez.
Viens, René.
Allez, venez.
Manger de devant.
Ah bah, on se plaignait quand il n'y avait pas la construction, on se plaint maintenant. Il y a la construction. Quand est-ce qu'on se plaint pas?
Non, grâce à Dieu, la construction, elle bat son fort.
Non, vas-y, pour toi. Non.
Ils ont arrêté.
Non, mais ça, ils ont pas fini.
Mais qu'est-ce qu'on casse en
fait? Je t'invite après, tu viens.
Top. Donc, alors nous chosrim el atov haklali hamakif et kol umidgale bahashlamato shel kol prat veshel kol kibbutz. Puisqu'on on revient vers la dimension du dévoilement divin, nous devons revenir vers la dimension de Mekifim et Akol Betov Aklali. C'est-à-dire que Dieu, il est bon. C'est le bien. Donc tout doit être dirigé vers le bien. Et comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Eh bien, on y arrive Be'ashlamato Shel Kol Prat Shel Kol Kibbutz. C'est-à-dire qu'on se complète les uns les autres. Nous ne sommes plus des communautés.
On est un peuple.
Mais on est un peuple qui se complète. C'est ce que les gens aujourd'hui, dans l'État d'Israël, semblent oublier. Qu'on a besoin de tous les styles qui forment la mosaïque juive. Bekitzur, Asher rak oto hakibbutz ha'enoshi she'yachol la'abia et zot memale ha'peh shel kol pinot nishmato. Beyoter, belida u patuach. Hu-hu, ha'yoter mitkarev el ha'ashlamot va'avtacha. בהמשכת מציאותו והיכול והיכול לתן לענייניו צורה חשובה. Ce n'est que dans cette dimension d'unité qu'on peut remplir nos missions de peuple juif. C'est parce qu'on est conscient qu'on a des gens qui sont meilleurs là, des gens qui sont meilleurs là. Il y a des gens qui sont meilleurs dans la production manuelle, des gens qui sont meilleurs dans la réflexion, des gens qui sont meilleurs dans les startups, il y a des gens qui sont meilleurs dans la Torah, il y a des gens qui sont meilleurs dans... On a besoin de chaque chose. C'est
ça ? Complète.
L'orak ve ma'amad shel ta'avarat ha'regashot.
Combien ?
Pardon ? Page Nun Vav. Et asher lo yuchal le'amer bechol safa velashon yomar veyuba bechol tokpo bemishtar ha'elohi achove kol venitzav la'ad. Cette dimension d'unité et de trouver le complément dans chaque chose qui va nous permettre de dévoiler Dieu ne peut être compris que lorsqu'on parle d'un peuple qui veut se rattacher à Dieu. Parce que c'est Dieu qui unifie tout. D'accord ?
Pas simplement, donc Tavara, ça veut dire quoi la...
Tavara Taregashot. C'est pas seulement un beau sentiment, cette dimension d'unité. C'est quelque chose de vrai. On a vraiment besoin les uns des autres.
Tavara, okay? Tavara, c'est pas un feu, c'est pas une...
Si, c'est le feu des sentiments, genre, ah, c'est bien d'être ensemble.
Ah,
C'est-à-dire, c'est pas seulement ça. Omna, Beshat Yeridatenu, lorsque nous sommes descendus, Keimem Nitzotze Aora Achayim Beyichud Bisrom Bezichronot Amidgalmim Bechayahouma Amasoratim, etc. Lorsque nous sommes descendus, donc en exil, Kehim, c'est Kehé, c'est quoi? C'est sombre. Sombres sont ces étincelles de lumière, de vie, de rassemblement, enfin, d'unité, de Yichud. Bezichronot Amidgalim Bechayahouma Amasoratim. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous reste de cette dimension de grandeur quand on est en exil? Dans certaines Masorot, on voit encore un peu ça. Ou alors, Bechol Amitzvot Vehalachot Amistafot Me'avar Uponot Eleatid. Nous avons des mitzvot également qui nous rappellent cette dimension de grandeur, qui font référence à des grandes choses qui se sont passées, mais des grandes choses qui vont revenir et qui pour l'instant semblent un petit peu bizarres. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu, à la tefila, le matin, on voit des gens qui montent ici et qui mettent un talit sur la tête et qui font des trucs bizarres avec leurs mains.
Bah, on aimerait bien parce que souvent, en ce moment, on n'a pas le talit.
Et tu dis au Rav de faire une théouda de Kohen à quelqu'un, tu mets un chèque.
Ah, et théouda de Kohen.
Je pense que même toi, tu serais d'accord. Non, tu veux pas être promu?
Non, mon arrière-grand-mère, c'est une fille et vie. Mais
ah ben voilà, et ben voilà. Bon, alors, il y a une autre solution. Il y a une autre solution, ça marche aussi avec des chèques. Non. C'est comme dans les grandes équipes de football, un transfert. Tu fais un transfert, tu payes un Kohen d'une autre communauté. Il faut le payer comme il faut et tu lui dis, tu viens ici. Fais un transfert, c'est comme ça que ça marche. On achète les meilleurs joueurs.
Un sosie là, Cohen, tu peux le faire venir. Non
voilà. J'ai un sosie Cohen, moi.
Tiens, un sosie, c'est quoi Cohen? De loin, là, quand même. Ah, je le vois, je pense. D'abord, je pense à toi.
Quand il y a un gars qui est un petit peu plus fort
que toi.
Il est un peu plus fort.
Il a la même tête que toi.
Il tourne ma parole. Écoute, moi, je crois.
Cohen, gentil garçon.
Au côté, je crois que
c'est. C'est pas moi. Bekitsou! C'est quoi les Kohanim qui font la bracha Birkat Kohanim? Aujourd'hui, ça ressemble à rien.
C'est des Kohanim.
Oui, c'est des Kohanim. Mais pourquoi on leur continue à leur garder cette grandeur? Pourquoi on leur donne, pourquoi on continue à leur donner ce statut-là? Allez, quelle est la raison du statut particulier des Kohanim? La raison du statut particulier des Kohanim, c'est Biklal, Shet, Lechem, Elohecha, O Makriv. C'est parce qu'il vient faire les korbanot, qui fait le lien entre moi et Dieu. Mais aujourd'hui, les Kohanim ne font aucun lien avec moi et Dieu. Aujourd'hui, le Kohen, il est électricien, il est dentiste.
Ça a changé, alors là, il n'y aura plus rien du tout après dans le judaïsme.
Ben, tu arrêtes, tu ne fais plus les corbanotes.
Ouais, mais enfin.
Oh, mais enfin, quand même.
Ils font les bras.
Mais Barkimotano.
Mais Barkimotano, mais d'où leur vient leur force? Parce qu'ils ont justement cette connexion avec Dieu. Me dit le Rav Kook, qui était lui-même Kohen. Et comment ça se fait qu'on garde Kohanim ce statut particulier? Eh bien parce que Pam Zaya Gadol, à l'époque c'était grand, quand il y avait le Beth Amikdash, Ve'atid Liot Gadol, parce qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, donc Bentaim, on leur garde le statut.
Il y a un rapport avec, je crois, Netilat Sedaim, le prophète Netilat Sedaim,
de la Tahara, c'est pas des Kohanim, c'est pour se l'appeler de la Tahara quand on mangeait au Beth Amikdash. C'est-à-dire, donc, voilà, par exemple, quand tu te laves les mains parce que tu vas manger un steak Big Doucha, c'est Gadol. Quand tu te laves les mains aujourd'hui, c'est Stam.
Ça dépend si c'est la Ciudad Mitzvah, par exemple,
c'est pas Stam. Mais voilà, c'est Stam. Stam, pas dans le sens où c'est pas bien de se laver les mains. Mais il n'y a pas de véritable intérêt, à part le fait que c'est pour la propreté. C'est-à-dire, la première fois que tu mets de l'eau, c'est pour la propreté. Ok? C'est... Stam Nekiout.
Pas nécessairement. Quelqu'un avec Netziat Sedaim, s'il vient de réparer son moteur, ça ne sert à rien de faire Netziat Sedaim. Tu voulais te faire un savon, le savonner les mains.
Je n'ai pas compris. Netilat Yadaim.
Netilat
Yadaim avant de manger, c'est pour être propre.
Pas,
complètement seulement, d'après la halakha. D'ailleurs, d'après la halakha, combien de fois tu dois te laver les mains?
10 fois.
Non, avant de manger.
3 fois.
D'après la halakha, je vais manger mon sandwich.
3 repas.
2 fois. Ah si, je dois manger le pain, oui, 3 fois. 3 et 3.
Bah putain.
2 fois.
Bah, vous avez entendu à la fin. Je dois laver les mains une fois.
Une fois et une fois.
Là où?
Ouais, d'accord.
Là où? Une fois. Ne regarde pas comme ça.
Non,
t'es d'accord avec moi?
1, 2, 3.
Non, pas 1, 2, 3. 1 et 1.
C'est tout.
Zéro.
Je te dis maintenant, par rapport à l'hygiène, ce n'est pas suffisant.
Mais c'est pas suffisant. T'as raison qu'avec du savon, c'est plus hygiénique. T'as raison qu'avec du alcool gel, c'est encore plus hygiénique.
Je ne fais pas des tiatiadaïm quand je sors des toilettes. Je ne fais jamais des tiatiadaïm.
Pourquoi?
Parce que je me lave au savon et je fais directement ma bracha quand je m'en vais.
Mais parce que aujourd'hui, Baruch HaShem, on a du savon à portée de main.
Je peux te dire, on serre la main pour un oui, pour un non aux gens. Oui. Et je vois des gens, je vois des gens qui vont aux toilettes, qui sortent des, comme si elle était, quoi.
Deux secondes. Ça n'a rien à voir, mon ami. T'es en train de me dire. Mais non, ça n'a rien à voir. T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui sont sales. On a le ciel qui nous tombe sur la tête. Ah ben oui, mais on veut qu'elle soit construite, la synagogue, on veut pas. Et voilà, saute.
C'est quand des appareils, c'est plus difficile pour eux.
Rabotai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui sont sales, tu parles pas d'eux. La halakha, elle t'a demandé de te laver les mains. Maintenant, évidemment qu'avec du savon, c'est mieux. Et avec du alcool gel et du produit spécial, ce que tu veux, c'est mieux. Mais à la base, la halakha qui a été écrite il y a quelques années déjà, où il n'y avait pas forcément du savon aussi facilement qu'aujourd'hui, elle t'a dit, les farot, tu te laves les mains avec de l'eau.
D'accord, mais je ne comprends pas que les rabbinim aujourd'hui, ils n'avancent pas ça. Qu'il y a du savon et qu'on peut faire les choses différemment.
Mais personne ne t'a dit que tu n'avais pas le droit de mettre du savon.
Je ne t'ai pas dit que je n'ai pas le droit. Je te dis que ce que je fais, je ne pense pas que ce soit quelque chose de bien. Je pense que c'est quelque chose de normal.
Mais tu as raison, mais la halakha,
t'es
mort. La halakha, c'est normal.
Le type, il a travaillé.
La halakha, c'est normal.
Il veut manger du pain, il fait comme ça, il s'assoit, il mange son pain.
Tu as raison que c'est, mais tu as raison qu'en mettant aussi du savon, c'est mieux. Mais tu es d'accord avec moi que c'est quand même mieux de verser un réveil d'eau sur ta main que de pas du tout la nettoyer.
Ça oui.
Ok. Maintenant, toi, tu me dis avec du savon, je suis encore plus propre. Mais tu as raison. Bien sûr que tu as raison. Et d'ailleurs, personne ne t'empêche de faire ça. Maintenant, le problème, c'est que pourquoi ça ne te parle pas en mode Netilat Yadayim Lifna Orel? Parce que tu es devenu Mekoubal. D'accord. Et Albia Kabbalah, tu vas faire, une fois que tu t'es lavé les mains qu'elles sont propres, tu vas faire un autre truc, une autre fois où tu mets de l'eau, cette fois pour les taher. Mais c'est pas Albia Halakha. C'est pas Albia Halakha. Albia Halakha, tu mets une fois. Un révit. Pourquoi est-ce qu'on s'est habitué à mettre deux fois? Parce que de peur que
deux fois.
Parce que de peur que ton ustensile, ils contiennent pas assez pour avoir un réveillite là et un réveillite là. Donc, on t'a dit, tu vas faire deux fois, parce que c'est sûr que si tu fais deux fois, tu auras forcément un réveillite. Donc, tu fais 1, 2, 1, enfin, c'est-à-dire que tu fais avec ton cli 2 ici, donc c'est sûr que j'ai un réveillite. Et après, je remplis et je fais 1, 2. Et comme ça, c'est sûr que j'ai un réveillite d'eau, ça marche, mes mains sont propres. Ça, c'est la halakha. Tu n'es même pas obligé de faire deux si tu as un Revit, les Kelly qu'on a, nous, aujourd'hui, ils font beaucoup plus qu'un Revit. Notre Kelly, il fait au moins 6 Revit. Donc, si tu le remplis à rabord, tu peux y aller en 1-1 avec un seul cli et t'es bon. Mais on a l'habitude de faire, enfin, on a pris l'habitude de faire deux fois pour être sûr d'avoir un Revit. Et arrive la Kabbalah, te dit, ok, maintenant que tu as fait la Netilat Yadayim al-Pi'a al-Kha, de te laver les mains pour qu'elles soient propres, moi, je te dis de faire encore un Revit. Pourquoi ? L'atar. Pour se rattacher au fait qu'à l'époque, on mangeait des korbanot bigdusha et que donc les yadaim, elles sont ma'avirot touma. Et que donc, si tu veux manger ton steak bigdusha...
On peut le voir, nous, dans la journée, combien de fois, si on se lave les mains, toujours il sort un petit peu de noir alors que tu les vois pas.
Mais il ne s'agit plus de ça ! Il ne s'agit plus de ça ! La troisième fois n'a plus rien à voir avec la propreté.
Mais ça comment, mon problème, et c'est ça que j'arrive pas à te faire passer, parce que je...
Mais je comprends, tu dis, les rabbins, ils doivent dire, viens, on arrête avec le cri, on prend du savon, et on se lave 5 minutes.
Non,
mais
c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que là, on fait de la pureté sur quelque chose de propre, pas sur quelque chose de sale.
Lavdavka.
Non, c'est que tu...
Bon, alors d'accord, on parle...
Mais non, lavdavka. Mais non, mais lavdavka.
Oui, je sais.
C'est-à-dire que tu peux être à l'époque du Beit HaMikdash, ok? Et t'as les mains pleines de poussière. Elles sont adaïn théorote.
Non, je parle pas de ça.
Mais si, tu me dis on fait de la pureté sur un truc qui est propre. J'ai dit lavdavka. Je suis d'accord avec toi qu'il faut être propre. Je suis pour la propreté. D'accord. Mais quand tu vas à l'époque du Beit HaMikdash, tu fais ton korban, ok? Et tu vas manger maintenant ton steak bigdusha. Tes mains, elles sont, yadaïm, elles sont ma'avirot touma. Donc si jamais, maintenant, tu as touché quelque chose de tamé, tu dois te laver les mains pour les taher, pour pouvoir manger ton korban, parce que tu vas le manger avec tes mains. Et donc, tu ne peux pas maintenant les halel et ta kodashim, donc tu es obligé de manger avec des mains qui sont tehorot. Mais si...
Tehorot,
pas nekiot, tehorot. Maintenant, si jamais j'ai touché, le parterre, et il n'y avait pas de lézard mort ou quoi que ce soit, c'était un mérite à poussière. C'est-à-dire, mes mains, elles sont toujours tehorot. Elles ne sont pas propres, mais elles sont tehorot. Donc je pourrais, si je veux, manger mon steak comme ça. Mais si je suis quelqu'un qui a étudié un tout petit peu l'hygiène, je vais quand même me laver les mains, mais pas pour l'éther, juste parce que je veux que ce soit propre.
Il n'y a pas une obligation que ce soit propre.
Ok. Maintenant, oui. Sans prix. Attends, juste deux secondes. Tu as raison que de manière générale, ça va ensemble, puisque la majorité des choses qui rendent impures, c'est des choses qui sont hygiéniquement pas propres. C'est-à-dire ? Donc en général, ça va ensemble, mais pas toujours. D'accord ? Oui, monsieur.
Ouais, moi, j'ai une question. Si la troisième, c'est pour rendre carbone, on défie à ta Kabbalah, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, quand on fait Netilat à la Boker, on doit faire trois fois ?
Le matin, oui.
Oui, je parle le matin.
Oui, oui, mais c'est, on fait trois fois les sérouines.
C'est oui. Pas pour rendre tort. Pour enlever la Touma.
Si, c'est pour enlever la Touma.
Mais pourquoi est-ce que.
Mais c'est parce que mais c'est pas la même Touma. C'est la Touma du matin. Parce que tu as dormi. Donc comme tu as dormi, il y a une madriga de Touma qui est en toi parce que tu as dormi, et tu enlèves cette Touma-là dans tes mains qui vont maintenant agir dans ce monde. Donc Zemil Khatrila pour la Touma.
Ok, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là c'est trois fois alors que pour la Touma, parce que c'est pas la même Touma, c'est ma question.
Naran, c'est pas la même Touma.
Ok, et donc du coup, quand on fait agir, on sort des toilettes.
Stam, t'as pas besoin de clé à fil.
Naran. Mais
donc c'est ça pour laver les mains.
Trois comme des petits athlètes.
Non, c'est pour laver les mains.
C'est comme on revient d'un supermarché.
Oui.
Obligé quand on rentre à la maison, il faut se laver les mains avec le savon parce que je vais prendre des tomates et il y en a 10 personnes qui ont touché ces tomates. On ne sait pas que.
Peut-être que c'est des mains de Kohanim que d'Oshot.
Non, je parle de tout le
monde. Tu as raison,
ça. Ouais, dès qu'on arrive à la maison, il faut se laver les mains. C'est tout. Okay. Parce que tout le monde a touché.
Donc, vous avez compris que les mitzvot nous permettent de garder quelque chose qui était grand, qui va redevenir grand. C'est juste que pendant tout l'exil, c'était difficile de voir la grandeur qu'il y avait derrière ces choses-là. Ok ? D'accord. Mais c'est d'ailleurs. Iné. Aval, koach chayim adir yesh baem, dans ces mitzvot, il y a une force de vie incroyable. Betnua charutza, beruach itorerut penimit, le chefetz chayim leumim meleim shelanu. Yitpazer meelehem gala efer shel timtum alev atzibur. עליהם מחמת כישלון רוחנו ויראו הזיקוקים דינו סליחה העומדים לעשות של אבתיה מחממת עולם ומאירה אל כל פינות. מודיע לרב קוק, quand on va redonner à toutes ces mitzvot sa grandeur, son koach החיים העוז, c'est ça qui va permettre d'enlever tout le timtum הלב qui s'est mis במהלך הגלות. OK. Aujourd'hui, tu vois des gens qui te disent que les mitzvot, c'est archaïque, c'est on est moderne aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi ça n'a plus rien à voir? Pourquoi ils disent ça, ces gens? Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas religieux? Bémet, voilà, je vous pose la colle.
Parce que c'est plus comment? Ils n'ont pas appris.
Comment ça?
Ils
n'ont pas appris. Ok, donc maintenant je leur apprends. C'est pour ça qu'ils deviennent tout de suite religieux.
Non, mais
t'as raison. Mais tu peux pas me donner ça comme argument.
Pourquoi?
Mais parce que ça, c'est pas quelque chose qui est conscient. Non, ça veut dire, quand tu demandes au mec qui est pas religieux, il va pas te dire parce qu'il y a les clipotes qui sont en moi et
qu'est-ce que je te dis. C'est-à-dire parce que je préfère aller kiffer.
Ok, donc d'accord, j'ai envie d'aller kiffer. Ouais. Mais deux secondes. Ce même mec qui a envie d'aller kiffer, ouais. Quand tu vas lui dire demain, tu as ton examen de mathématiques, c'est ta bagroute, tu viens à la maison, ça y est. Et il vient au final. C'est-à-dire que ça ne le fait pas kiffer, il préférerait continuer à jouer au foot ou au basket, mais il vient quand même parce qu'il sait quelque chose qui est plus important. Donc ça, on a réussi à lui faire prendre conscience que bien sûr qu'il préférerait jouer au foot, mais il y a des choses plus importantes, c'est son examen de maths. Tu n'as pas réussi à lui faire comprendre que faire les mitzvot, c'est plus important. Chez Elaï Lama.
Parce qu'il va voit pas la récompense ou la conséquence d'eux. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que la conséquence, que s'il va...
Il ne voit pas que ça lui fait du bien.
Le Shabbat, et ben en fait, à Kol Tov...
Il ne voit pas que ça lui fait du bien.
Il ne voit pas que ça lui fait du bien.
Il voit pas que ça lui fait du mal, il voit pas l'intérêt d'eux. Il voit pas l'intérêt d'eux. C'est un kishalon. De qui ? Des rachamim. C'est un kishalon des rabbins qu'on n'a pas réussi à lui faire comprendre. Mais enfin, tu te rends pas compte, c'est pour toi. C'est toi qui rates. Et donc, nous disons, Rav Kook, effectivement, Bagalout, on avait beaucoup de mal. Et donc, maintenant qu'on est en train de retrouver notre chalevet, notre flamme, eh bien, très bien, il va falloir réexpliquer, mais de manière grande. La mazeto. Ok, c'est un vrai travail. Oui.
Le problème de mitzvot, c'est qu'il y a un attachement obligatoire c'est pour celui qui veut le faire, de s'accrocher à ça. Par exemple, on dit le chemin Israël, il est limité à 8h30 le matin. C'est limité où tu fais, où tu ne fais pas. Mais si y a une espèce d'obligation, et il y a des gens qui ne se sentent pas obligés, ils veulent vivre leur vie sans avoir d'obligation. Il y a d'autres obligations dans la vie, pas plus importantes, mais par exemple, quelqu'un qui a besoin de manger, et s'il a faim, il faut qu'il mange. Il y a pas, de...
Mais ce n'est pas une mitzvah, ça.
C'est
une mitzvah de manger.
Ouais, c'est une
mitzvah de... Ce n'est pas une mitzvah de manger. Non, on n'invente pas, on a déjà 613, tu ne veux pas en inventer d'autres.
Non, c'est
pas une mitzvah.
C'est
pas une mitzvah.
Exactement.
Tu fais pas de mitzvah quand tu manges.
Il a besoin de manger pour se
maintenir. Non, tu ne fais pas de mitzvah quand tu manges. Tu fais une mitzvah quand tu manges la matzah à Pessah, le premier soir de Pessah, là oui. Tu fais une mitzvah quand tu manges le maror, ok. Mais tu ne fais pas une mitzvah quand tu manges à midi, là.
Je veux dire par là qu'il y a une obligation quand on veut faire la mitzvah de le respecter. Et de le respecter dans le temps, dans la manière, etc. etc. Et ça, ce côté obligation, il y a des gens, ça les dérange.
Mais bien sûr que ça les dérange. Mais pourquoi ça les dérange? Pourquoi ça dérange? Parce que si tu me dis que je suis obligé de faire quelque chose, mais que moi, j'ai l'impression, ou alors même toi, tu me dis que c'est comme ça, pourquoi je devrais être obligé de faire telle ou telle chose? Kaha, parce que c'est Dieu qui a dit. C'est lo oved. À l'époque, ça marchait, parce que tu disais, si tu fais pas, tu vas brûler en enfer. Ah, les gens, ils avaient peur de brûler en enfer, donc ils font. Maintenant, ça ne marche plus, le « tu vas brûler en enfer ». C'est-à-dire, donc, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi je dois faire Kriyat Shema avant l'heure de Kriyat Shema?
Oui, mais c'est justement ça, c'est le côté limite, le côté obligation qui fait que les gens, ils sont...
Il y en a qui sont j'entends bien. Maintenant, d'un autre côté, l'homme, il faut que tu saches que l'homme, il a besoin d'une misguerrette, il a envie d'avoir un cadre. Ok, l'homme, il veut avoir un cadre. Il s'oblige plein de choses dans la vie. Seulement, il n'accepte le cadre que s'il sent que ça lui fait du bien à lui. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on doit faire en sorte que l'homme, quand il voit le cadre de la Torah, il dit c'est bénéfique pour moi. Ça me fait du bien. Maintenant, comment tu peux lui expliquer ça? Si tu ne fais que lui dire il faut faire les choses parce que c'est comme ça ou parce que Dieu il a dit, ça ne marche plus.
Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable d'expliquer pourquoi on va faire le chemin Israël avant
le matin. Eh bien, il faut. Excuse-moi. Pourquoi tu es rabbin alors?
C'est pas tout le monde qui est capable d'expliquer.
Alors, pourquoi tu es rabbin? Si tu ne sais pas expliquer, sois pas rabbin. Deviens maçon.
Ceci dit, c'est une mitzvah de... Je reviens sur mon deux sujets. C'est une mitzvah de manger.
Oui.
Ouais, sur ce sujet, c'est une mitzvah de manger. À Sukkot, télé à la Ouchot, le Shabbat, le Onek Shabbat, c'est pas de faire le jeûne, t'as pas le droit.
Dis-moi, tu fais exprès?
Oui, c'est
ce que je t'ai donné l'exemple de la matzah le premier jour de Pessah.
Ouais.
Premier jour de Pessah. Ça, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, il y a des fois où.
Les 15 repas qu'on fait dans la soukha.
Il y a des fois où c'est des mitzvot. Nachon, j'ai donné un exemple. Je ne t'ai pas donné tous les exemples. C'est Nachon, des fois, il y a une mitzvah de manger. Shabbat, c'est une machloket parce que tu as le droit de jeûner à Shabbat. Tu m'as dit Shabbat, pas Yom Tov.
Ouais.
Shabbat, tu as le droit de jeûner. Si c'est ça ton oneg, tu as le droit de jeûner. Parce qu'il n'y a pas marqué que Vesamarta Beshabbatra. Il y a marqué Vekarata la Shabbat, oneg. Donc si pour toi le oneg, c'est pas de manger, tu as le droit de jeûner à Shabbat. Alors que Yom Tov, il y a marqué Vesamarta Bechagera, Ben Simcha et la Bebasar Beyang. Mais bon, l'homme jeûne, tu as raison. La majorité des gens, leur oneg Shabbat, c'est de manger. Moi, perso, c'est pas un oneg de jeûner à Shabbat. C'est-à-dire. Hein?
Même la
scène, c'est pas un oneg. Hein, comme tu peux voir, bon, Hachem, ce n'est pas un oneg du tout.
Pour faire que dans la Torah, il y a 4 jeunes de
obligatoire. Maintenant, tout ça pour te dire que oui, il y a des fois où c'est une mitzvah de manger. Mais stam, là, le repas que tu vas faire à midi, c'est la mitzvah. C'est pas grave, tout n'est pas obligé d'être une mitzvah. Ça a l'air. C'est, encore une fois, c'est pas s'exciter. Si tu veux pas manger à midi et que tu veux manger que ce soir, t'as ta Yehoudi tzadik. Ok ? Ben c'est l'air. Tzillele ha'inyanim shelanu atakot hem me'avar gedol. Donc tout ce qu'on continue à faire, nos traditions, nos mitzvot, machin, ce sont les copier-coller d'un passé extraordinaire. Uponot hen tamid eleatid anisgar. Et elles ne sont pas là que pour nous rappeler un grand passé, mais elles sont toutes connectées vers un grand avenir, un encore plus grand avenir. Sheu kol kach nisgar va'ad sheu me'ir et ha'oveh ve'oseh oto le'oveh ma'asi mitzad godel kocho. Voilà, c'est ça qui est important. Me dit, la grandeur du futur et de l'avenir qui nous attend est tellement grand que c'est lui qui met la lumière sur le présent aujourd'hui. Tu ne peux plus faire les mitzvot que par rapport au passé. Et c'est pareil quand tu donnes les ta'amé à mitzvot. Le Rav Kook, il dit très souvent que le Rambam, il donne comme ta'amé à mitzvot des choses du passé. Il disait, vadaï nachon, mais ça ne suffit plus. Tu peux pas me dire l'otochlou à la dame. Mazel l'otochlou à la dame.
Le sang.
Mazé à mitzvah azot, lo tochlou à la dame. C'est une mitzvah de lo ta'asé.
Pas manger le sang.
Non. C'est pas le lo tochlou et ta dame. Lo tochlou à la dame, c'est quoi? C'est que lorsque tu manges, il faut que le sang, il soit pas visible. C'est-à-dire que s'il y a du sang de la shrita, de la bête, machin qui est tombé, tu dois faire. Il y a deux mitzvot. Il y a mitzvah de kisou yadam. Mais ça, c'est pour. Parce qu'il y a une certaine boucha. Au niveau d'avoir pris la vie d'un animal, mais il y a aussi qu'à l'époque on creusait un trou autour de là où on mangeait, enfin au milieu de là où on mangeait, on mettait du sang dedans de l'animal. C'est assur la sortez, c'est nikra lotochlu à la dame.
Pourquoi on faisait ça?
Que dès la zmin et hashedim.
Pourquoi la zmin
et hashedim? Ah, c'est sympa de manger avec les chedim et tout. Toi, tu manges ton steak, lui, il mange, il boit, il a une paille, il boit du sang. Dracula, tu connais pas?
C'est des vampires.
On va dire, on leur donne. On leur donne.
Zenikra, les chol à la dame. La Torah nous a dit, al tochlo à la dame. Lama, qu'ils avaient d'Azara.
Alors.
Ok? Donc, nous dit le Rambam, pourquoi est-ce que la Torah nous a interdit de le faire? Parce que, on faisait avant d'Azara, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, nous, on fait pas ça. Il y en a plein des mitzvot comme ça qui étaient. Les Ovdav d'Azara, ils faisaient comme ça, nous, assour. Ok? Il dit le Rav Kook, c'est vadaï nachon ce qu'il dit le Rambam. C'est sûr que c'est vrai. Mais ça suffit plus. Tu dois donner aussi un ta'am shele atid. Parce que la mitzvah, elle reste vraie maintenant alors qu'il n'y a plus d'avodazara. Plus personne ne fait ça. Alors quand on va te dire de ne pas le faire, tu vas dire dans la Torah, l'otochlo à la dame, lama. Ne dis pas aujourd'hui que c'est pour ça. C'est-à-dire, l'otakif pe'at roshra. C'est quoi cette mitzvah-là? Mazé, l'otakifu peatre, l'otakif peatrochra. Mazé. C'est quoi cette mitzvah-là?
Ne pas dépasser.
Ah, voilà, vous avez un problème. Hein. C'est que vous faites des mitzvot, vous ne savez même pas que c'est des mitzvot.
Il y a des choses qu'on lit, qu'on ne comprend pas non plus.
Mais ça, tu la connais parfaitement. J'ai pris d'Afka un exemple d'une mitzvah que tu connais très très bien. J'en suis sûr.
Parce qu'il faisait ça.
Aval Mazé. Mais c'est quoi?
C'est
qu'on n'a pas le droit de se couper, se raser complètement ici. C'est ça la mitzvah. Lama. Parce que c'était une pratique de Ovdei Avodah Zara be Mitzrayim, qu'on se rasait d'Afkala. Ah, il faisait comme ça, anachnou lo. C'est nachon. Mais ça suffit pas. Donc, pourquoi est-ce que l'otakif gampe à Troshra? Azarive, Chachma Mekoubalim. Et là, ils viennent te donner un autre tam de l'autre qui fait atrochra. Et ils viennent te dire, parce que Asehar, c'est midatadin ba'adam. Les cheveux, c'est midatadin. Pourquoi c'est midatadin? Ben parce que lorsque tu coupes les cheveux, tu ressens rien. Enchum regesh, zakol din. Ah ben c'est ça, donc il faut laisser pousser le din. Parce que l'homme, il doit être conscient. Et zemakif et rochon. Il doit être conscient que ce qui gère sa vie, c'est la rigueur, la justice. Donc tu laisses pousser. Mais attention, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Donc tu laisses pousser, mais tu caches. Et il ne faut pas que ça aille plus loin que le lobe de l'oreille. Parce que gamzem est atadin. Et tu ne peux pas avoir din al din, parce que yeshgam chesed.
Il est payas.
C'est ça.
Qui c'est qui est
voilà,
les descendent en bas.
Ah, les gens qui vont, les bayas qui descendent en bas comme ça.
Qui font 30 cm de
qui font 30 cm de long derrière l'oreille, c'est stam chibouche.
Non, c'est pas derrière l'oreille.
Je sais bien que tu vas arriver à ça. Mais d'abord, je réponds à le minag d'aujourd'hui, qu'on fait des pères comme ça derrière les oreilles, mais que ça descend jusqu'en bas. Zestam. Zestam chibouche.
Mais qui c'est qui est capable de savoir tout ça?
Mais on étudie la Torah ou on étudie pas la Torah? Je comprends pas. Alors, ça, c'est stam.
C'est stam.
C'est stam en général des jeunes. Ah. Mais bien sûr, tu vois beaucoup d'adultes qui ont des péotes qui mettent derrière l'oreille et qui descendent très loin, très rare. Tu vas avoir des gens qui ont des péotes comme ça et tu vas avoir des guirlandes. Ah, guirlandes, c'est ma joie. Les guirlandes, c'est l'alpia Kabbalah, c'est l'alpia Chassidut. Et nous dit Rabbi Elimelech de Lijansk, dans son livre Noam Elimelech, que ma baïa, le Beth Amikdash a été détruit. Ah oui, mais c'est quel le Beth Amikdash qui a été détruit? Quand on parle d'un Beth Amikdash détruit, on parle du first, du premier, parce que le deuxième Beth Amikdash, bien qu'il était beaucoup plus grand et beaucoup plus beau, c'était un Beth Amikdash, c'était une coquille vide. Il n'y avait pas de Shrina au Beth Amikdash Baïcheni. Il n'y avait pas le Aaron Abrit Baïcheni. L'on savait. Le vrai Beth Amikdash qui nous faisait le lien avec le Kadosh Baruch Hu à Yerushalayim, c'est le premier. Il a été détruit. Et donc, tant qu'on n'a pas reconstruit troisième temple, Bezrat Hashem, alors, eh ben, l'homme, il devient un petit peu le Beth Amikdash. Maintenant, du premier Beth Amikdash, on ne connaît pas grand-chose. À part les dimensions qu'il avait, mais on ne sait pas l'architecture du Beth Amikdash. Le deuxième, on connaît dans tous les détails, mais le premier, on ne connaît pas. On connaît les dimensions, on sait les kelim qu'il y avait, les ustensiles qu'il y avait dedans.
Il n'y avait pas
Rochet. Les ustensiles qu'il y a, on connaît. Mais on ne connaît pas, ça ressemblait à comment, le toit, il avait un... On ne connaît pas. Il n'y a personne qui nous a décrit ça. Par contre, on sait qu'à l'entrée du Echal, il y avait deux colonnes qui s'appelaient Yachin et Boaz. Les deux colonnes à l'entrée du Beth Amikdash qui s'appelaient Yachin et Boaz. Yachin, c'est Yeho Yachin, et Boaz, c'est Boaz. C'est-à-dire le premier et le dernier des rois d'Israël. Pour ouvrir, et Boaz, c'est le père de la dynastie messianique, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de David. Yeho Yachin, c'est Tzidkiyahu, le dernier roi d'Israël avant la destruction du Beth Amikdash et de Jérusalem. Donc ça veut dire qu'on te dit, la Malchoute et le Kodesh doivent être reliés. Viens le Noam Elimelech, il te dit, puisqu'on n'a pas en... le Beth Amikdash a été détruit, tant qu'on ne l'a pas reconstruit, on doit être un peu nous le Beth Amikdash, et donc on se laisse pousser deux colonnes, Yachin et Boaz. Et donc c'est ça les péotes en mode colonne. Donc plus rien à voir avec Midatadin ou pas Midatadin. C'est ça. Donc vous comprenez que tout d'un coup, lorsque moi je vais chez le coiffeur et que je décide de ne pas me raser ici, c'est la mitzvah de l'otakif peatroshra. Mais est-ce que c'est juste parce que les Égyptiens, eux, ils se rasaient comme ça? Ou alors, c'est parce qu'il y a aussi un tam chez les Atid, un tam qui est vrai, sans rapport avec les Ovdei Avodah Zarah. Ok? Vous comprenez? C'est ça que nous dit le Rav Kook. Que tu ne peux pas garder uniquement un rapport au passé, mais que la Torah doit aussi avoir un lien avec l'avenir. D'accord? Atkan, c'est baro?
Oh.
Oui, monsieur.
Vous avez parlé pour les chédis.
Oui.
Ah, on leur donnait un chédis, on leur donnait une part à manger.
Mais moi, je n'ai pas dit qu'on devait. J'ai dit que c'est ce que les gens faisaient.
Le trou de le sang.
Mais je n'ai pas dit qu'on devait le faire. J'ai dit que c'est justement ce que les idolâtres faisaient.
Ah, ça règle les idolâtres.
Oui, nous, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit, c'est assourd.
Mais oui, c'est ça.
Ah oui. C'est-à-dire ? Non, ne le fais pas. Prochaine fois que tu fais un petit repas entre amis.
Non, ça fait du bruit, on n'entend pas tout.
Ah, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, revenons, on termine juste le perek. Omnam, akol מדוד לפי ערכו, יש עתיד שיוכל לחמם ולהאיר רק את ההווה הקרוב והסמוך ביותר, וכל מה שיגדל כוחו של העבר וערכו של העתיד, כך הם יכולים לעשות את ההווה מזריח, מחכים, להווה גמור, המלא חיים ותנועה אמיצה. Plus ce que tu rattaches à l'avenir est grand, plus ça éclaire dans ton présent. Pashut. Gadol ou avarenu. Notre passé est grand. Aval yoter gamize gadol ou atidenu. Notre passé est un grand passé. Le peuple juif, 4000 ans d'histoire, zegadol. Aval od yoter gadol atidenu. Comment est-ce que je commence? Vous savez où est-ce que je commence chacune de mes visites en vieille ville de Jérusalem? Chaque guide, il a son truc.
David,
c'est où l'endroit où moi je commence quand je donne rendez-vous à des touristes et qu'on veut visiter la vieille ville?
David?
Non, ça, il me faut plus de temps. Mais disons que je fais juste la vieille ville.
Migdal David?
Pas Migdal David. Je leur donne rendez-vous. Alors, soit ils n'arrivent pas à se repérer, donc je leur dis Shaar Yafo, mais c'est pas par là que je vais commencer. Je commence devant le troisième palmier, quand tu descends de la mairie, tu longes les murailles pour arriver à Shaar Yafo. Le troisième palmier, tu vas croiser des palmiers. Mais le troisième palmier. C'est ça ? Rappelez-vous le troisième palmier. Pourquoi le troisième palmier ? Parce que quand tu te mets devant le troisième palmier, en fait, c'est face, c'est le troisième palmier, c'est deux palmiers qui font comme ça. Donc c'est facile à repérer.
Il y a un peu d'avenir déplacé et beaucoup d'avenir.
Non, c'est pas pour ça. Mais en fait, oui, mais c'est pas à cause des palmiers en soi. Les palmiers, c'est juste un repère. C'est parce que quand tu te mets à cet endroit-là et que tu regardes la muraille, et que tu regardes la cinquième rangée de pierres dans la muraille.
Il y a une plaque là-bas.
Hein ? Il n'y a pas une plaque. Il y a un truc gravé dans une pierre.
Je crois qu'on avait
on a vu ensemble.
On a
fait un truc. D'accord ? Je vous ai montré.
Qui rappelle les
exactement, exactement. Il y a une pierre, exactement. Il y a marqué le symbole, enfin le symbole, le X de la 10e Légion. C'est-à-dire, donc c'était une des pierres qui était l'ornement d'un des camps de la 10e Légion qui entourait Jérusalem pour le siège de Jérusalem, pour la détruire il y a 2000 ans. Et donc, j'amène les gens qui viennent de France, machin, je leur dis, bon, Jérusalem, grande ville, extraordinaire. Maintenant, vous connaissez Paris ? Paris, vous connaissez
Paris, la
Paris, ville lumière. Et je leur demande, mais comment s'appelait Paris il y a 2000 ans ? Ils me disent Lutèce. Et après, je leur dis, on voit que les fans d'Astérix. Après, je leur demande, comment s'appelait Paris il y a 2500 ans ?
La scène n'existait pas.
Exactement. Ça ne s'appelait pas parce qu'il y avait deux huttes qui se battaient en duel. Il n'y avait pas de ville. Ils me disent, ah ouais, d'accord. Et alors, quel rapport ? Je dis, bah, regarde, à l'époque où Paris vient au monde, il y a cette pierre-là qui entoure Jérusalem. C'est-à-dire qu'à l'époque où Paris vient au monde, il y a la 10e Légion romaine qui fait le siège de Jérusalem. Et tu veux que je te dise, à l'époque où Paris vient au monde, ça fait déjà 2000 ans que Jérusalem existe. Jérusalem, elle a 4000 ans d'histoire. Donc oui, on a un passé glorieux. Nachon, mais dis-leur à Fouk, mais notre avenir, il est tellement plus grand que ce qu'a été notre passé. C'est-à-dire, donc on puise nos forces non plus du passé, mais de l'avenir. Agave, entre parenthèses, c'est également ce qui explique le passage de ce qu'on appelle Yeridat Adorot, le Mash Korim Aliat Adorot. C'est-à-dire que, vous avez entendu certainement qu'il y a une chute des générations. Ok, nous dit le Rav Meir Yehuda Getz, le Rosh Yeshivat HaMekubalim Betel, Rav HaKotel, c'est terminé, Yeridat Adorot. C'est terminé. Maintenant, on parle de Aliat Adorot. Les générations grandissent. Et c'est vrai, nos enfants connaissent beaucoup plus de choses que les enfants d'il y a 200 ans.
Parce qu'on a reçu des explications.
Et parce que le monde a évolué. Parce que c'est la Géoula.
On ne parlait pas de tout ça. D'accord ? On ne parle pas.
D'accord ?
Maintenant, on en parle.
Tu as raison.
Je prends tous les cours parce que je veux savoir.
Mais tu as raison, 100%. Et aussi le fait qu'il y a beaucoup de moyens de transmettre la Torah, qu'il y a le cours qui est sur YouTube là en ce moment. Parce qu'on est en train de dévoiler quelque chose, mais ça ne dépend pas que de nous. Kadosh Baruch Hu nous a mis dans une réalité aujourd'hui où on peut grandir. Et on doit grandir. C'est-à-dire, les gens ne se satisfont plus de petitesse. C'est-à-dire, Donc c'est bidouk ze. הגדול הוא עברנו, אבל יותר מזה גדול הוא עתידנו, שמתבהר יפה בחפצנו, בצדקת האידיאלים הגנוזים שבנשמתנו. נותח אידיאל, היא לברה. בכוח גדול הזה, חיים וקיימים בקרבנו, רוח חיים מלא כל רגעי ההווה. C'est grâce à cela qu'on peut remplir de vitalité tous les moments du présent. וכל הזיכרונות ממלאים הם בעוזם, כוח חיים המון מעשים רבים, כוח בינה מיוחדת, כוח יצירה בצביון מיוחד, השקפת עולם מסומנת, מצוות, מנהגים וסדרים, וכולם מלאים לקח וליבוב, אהבה ועדן. משוקעים, מיטל של חיים ושל גבורת הוד, מעדן של, מעדן שלנו, מגבורה שלנו, מעודנו היחידי. Donc c'est ça la grandeur de notre génération. Nous sommes remplis de la force de l'avenir. C'est-à-dire, c'est ça que nous dit le Rav Kook il y a 120 ans. C'est-à-dire, c'est ça qui est en train de permettre au peuple de construire.
Pourquoi nos pères, ce serait pas la même chose?
Pourquoi nos pères, c'était pas la même chose?
Oui.
Parce que c'était pas la Géoula.
Mon père, quand il est né en 1930.
Ton père, il rentre sous le coup de ce que dit le Rav Kook.
Ah oui.
Ça a commencé. Ça a commencé.
Ouais.
Mais plus tu avances, plus ça grandit.
Ça prend du temps quand même.
Donc tu as raison que le Rav Kook qui écrit ça, on est dans le début du XXe siècle.
Oui,
ça commence. Il y a Atralta de Geoula. C'est-à-dire, mais nous on est déjà dans Geoula. Et plus on avance, et plus c'est Geoula Shlema. Donc c'est normal que plus on avance, plus on est grand.
Là, il y a un bio beaucoup plus grand.
Oui.
Sur confiance, c'est pourquoi on le fait.
D'accord.
Et tandis qu'avant, ils faisaient parce que c'est
exactement. Et tu as raison. Tu vois. Alors, d'un côté, on va te dire, ouais, mais avant, ils faisaient plus. Il y avait plus de gens qui pratiquaient. Tout le monde était religieux avant.
Ouais, mais ça veut pas.
Il a fait. Il a fait. Donc le but, c'est pas de faire sans savoir. Le but, c'est
de
faire et de comprendre. Et c'est là qu'arrive le fameux. Ah bon? Depuis quand il faut comprendre? Ah bon? Depuis quand il faut comprendre? Naase Venishma? Hein? Combien de rabbins nous ont dit qu'il faut faire Naase Venishma? Hein? Nous ferons?
Nous comprendrons.
Donc en fait, il ne faut pas comprendre. Tu comprendras peut-être après, mais fais d'abord.
Oui, mais maintenant, nous, on veut comprendre.
Mais parce que ce n'est pas vrai, Naase Venishma.
Pour ça, c'est ce qu'ils ont dit.
Non, c'est ce qu'on dit.
Et même, ils ont été.
Mais c'est pas ce qui est écrit.
Pour ça, pas, à
mais c'est pas ce qui est écrit.
Ils font avant de savoir ce que.
Mais non, c'est pas vrai. Il y a marqué dans la Torah un pasouk en entier. Tu peux pas sortir juste les deux derniers mots du pasouk. Le verset nous dit dans le livre de Shemot, Parashat Mishpatim, Kol Asher Diber Hashem Naase Venishma. Deux secondes. Comment tu traduis le mot Naase? Naase.
Nous ferons.
Nishma.
On
écoutera, mais comment tu le comprends?
On comprendra.
C'est-à-dire, donc, tu admets que le fait d'entendre, ça veut dire aussi comprendre. On est d'accord. Yof, le début du verset vient nous expliquer comment tu peux faire. Parce qu'on te dit fais, tu comprendras après, mais comment tu sais ce qu'il faut faire? Comment tu sais ce qu'il faut faire?
Parce qu'il y a un commandement.
D'où tu sais? D'où tu sais qu'il y a un commandement?
Ensuite, si tu veux.
D'où tu sais qu'il y a un commandement?
C'est
ah donc tu, quelqu'un t'a parlé et tu as
ah, j'ai entendu.
T'as entendu,
j'ai entendu.
Ah il a fait. Donc ça veut dire Kol Asher Diber Hashem. Tout ce que Dieu a dit. Donc moi j'ai entendu. Donc j'ai compris.
Non. Quoi? Je suis pas d'accord.
Il y a deux secondes vous m'avez tu dit peux... que entendre ça voulait dire comprendre.
Attends.
Vous étiez d'accord il y a deux secondes.
Tu peux entendre. Tu peux entendre.
Ah c'est pas. On est d'accord. C'est en fait vous comprenez. On me dit tout ce que Dieu il a dit. T'as entendu? Parce que sinon tu sais pas quoi faire.
En entendant,
t'as compris un certain niveau. La preuve, c'est que tu fais maintenant. Deux secondes. On t'a dit de t'arrêter de travailler le Shabbat. Tu t'arrêtes de travailler? Oui ou non?
Si tu écoutes, si tu vas.
Toi. On t'a dit de pas travailler le Shabbat. Oui.
J'ai fait.
Mais c'est travaille. Pas maintenant. Alors,
maintenant.
On t'a dit de pas travailler Shabbat. Non, mais travailler, ça veut dire allumer la lumière. Azor, on t'a dit de pas allumer la lumière Shabbat.
Ouais, mais c'est okay.
Tu allumes pas?
Pas.
Je sais que t'allumes pas. T'es un sadique. Donc t'allumes pas. Comment tu sais qu'il faut pas allumer?
j'ai appris.
Parce que le rabbin, il t'a dit, il ne faut pas allumer la lumière Shabbat. Donc, tu as entendu. Tu as compris qu'il ne fallait pas allumer la lumière Shabbat. Tu as compris, ça. C'est une certaine compréhension. Maintenant, j'ai décidé de faire, donc je n'allume pas. Ah, la Torah te dit, en faisant, tu comprendras d'autres choses. Tu comprendras une nouvelle dimension. C'est sûr. C'est sûr que quand tu joins l'action à la réflexion, ça t'amène à plus de compréhension. Bien sûr. Mais au départ, tu as compris quelque chose.
Minimum, tu as entendu.
Bien fait, donc tu as compris quelque chose. Ça va ? Donc quand on te dit, na aser venishma, nous ferons, nous. Non ! D'abord, tu as compris. Ensuite, tu as fait et après, tu as recompris mieux.
Moi, je vois il y a quand même quelque chose dans cette explication. Quelque chose qui part. Parce que quand on veut t'expliquer quelque chose, des fois, tu entends, tu penses avoir compris et puis tu n'as rien compris.
Ça dure. On apprend. Ça, le... Dans Rabotai, on passe baiser à la paracha cette semaine.
Il n'y a pas eu le propos et femmes aujourd'hui.
On va pas se plaindre.
Très bien, arrête de plaindre, tu ne plains pas, toi.
Dans d'autres mondes, elles vont arriver après.
On va pas s'en plaindre.
Ouais. 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 Ouais.